de l'Ouest, Hilaire de Poitiers. Alors c'est une demi-génération, enfin Hilaire est né après, il est mort avant, donc 315-367. Il est mort à un âge normal pour un occidental hein, de l'époque, même un peu vieux quand même. 52 ans, vous voyez. À mon âge, je dirais que c'est jeune. Hein.
Et au mien.
Alors, les exils d'Athanase en Occident avaient donc sensibilisé les évêques occidentaux à l'arianisme avant qu'il arrive vraiment. Et alors, Hilaire, lui, va faire le parcours inverse. Parce que il était un défenseur ardent de Nicée, et toujours pour les mêmes raisons, il va se faire exiler. Alors, les orientaux les exilent en Occident, et les occidentaux les exilent en Orient. Donc Hilaire va partir en Orient, et là, évidemment, il va se documenter avec des choses de première main là-bas. Mais à la différence d'Athanase, qui était quand même très intransigeant, Hilaire cherchera la conciliation, toutefois sans les compromissions d'un Eusèbe de Césarée. Alors on pense qu'il est né lui aussi dans une famille païenne, considérée comme Athanase, et ça à cause de sa bonne formation rhétorique. Hein, on reconnaît l'extraction à partir de la langue à cette période. Alors il se convertit à l'âge adulte, paraît sous l'influence du prologue de Saint Jean. C'est vrai que le prologue de Saint Jean, c'est comme un texte marquant. Hein. Donc ça le marque. Et il devient évêque de Poitiers en 350. Donc vous voyez, il devient vite évêque. Et il s'attire immédiatement l'inimitié des cercles ariens, quelques années après, et il est exilé par un synode. Donc vous voyez que certains évêques occidentaux étaient marqués par l'arianisme. Un synode qu'il envoie pendant 4 ans, il sera exilé pendant 4 ans en Phrygie, donc en Asie mineure. Et là, marqué par l'origénisme qui est très développé dans cette région, il va fréquenter les milieux donc homo iousiens. Vous vous souvenez qu'il y avait l'homo iousios, hein,
donc il a la doctrine de Nicée, et puis cette espèce de conciliation en rajoutant un iota qui voulait dire
donc pas exactement la même nature mais une nature semblable. Alors l'idée c'était d'éviter le sabellianisme ou modalisme, c'est-à-dire de dire en fait il y a un dieu mais il y a trois façons différentes de l'aborder, hein, c'est comme la grande idée, regardez une pyramide, puis vous avez quatre faces, et puis vous dites, oui, c'est quatre choses différentes, mais en même temps, c'est la même. Voilà. Et donc, craignant d'une certaine manière de tomber avec l'homo iousios dans le sabellianisme, eh bien, il va à un moment être tenté par cette idée de dire qu'il est finalement plutôt semblable. Bon. Et c'est alors que tombe la condamnation des deux formes. Donc la forme orthodoxe et la forme semi-arienne vont être condamnées par Constantin II en 357 sous l'influence d'évêques qui sont proprement ariens. Et qui refuse donc de dire même que le Christ est semblable à la divinité. Donc, et qui le subordonne clairement comme un être créé. Alors là, évidemment, Hilaire se rend compte que que ça va pas, et il arrive à quitter l'Orient et retourne en Gaule. Et finalement, grâce à Julien, parce que Julien, il s'en fiche de toutes ces choses. De toute manière, tous les chrétiens sont des adversaires. Et alors, il profite de l'avènement de Julien pour retourner en Gaule. Et là, il va chercher à concilier l'orthodoxie nicéenne avec cette espèce de semi-arianisme. Et finalement, il se ralliera, il s'apercevra que c'est un compromis qui ne tient pas. Et donc, il fera le choix d'en revenir carrément à la doctrine de Nicée. Et comme Athanase, il va favoriser l'idéal monastique, parce que c'était chez les moines qu'on trouvait les plus ardents défenseurs de la doctrine orthodoxe, parce que d'une certaine manière, ils l'avaient expérimenté dans leur vie spirituelle, vous voyez. Et donc, il va favoriser le monachisme, Saint-Hilaire. Alors, il a écrit un certain nombre d'œuvres, des commentaires bibliques, comme tout le monde, par exemple sur Saint Matthieu, sur les psaumes, qui datent d'avant son exil. Son commentaire sur Saint Matthieu date d'avant l'exil. Son commentaire sur les psaumes date de son exil et est un peu marqué par Origène, qu'il découvre là-bas. Mais son œuvre la plus célèbre, c'est son De Trinitate, en 12 livres, rédigé pendant l'exil, et qu'on appelle aussi De Fide, donc sur la foi, ou Contra Arianos, donc ça donne bien évidemment, parce que parler de Trinité, c'est nécessairement être opposé aux Ariens. Qui a fait un. Je crois que c'est l'actuel préfet de la doctrine de la foi qui a fait son doctorat sur le De Trinitate de Saint-Hilaire. Oui, la Daria.
Non, la Daria. C'est la Daria.
Jésuite.
Oui. Alors, le premier livre. Je ne veux pas dire chaque livre. Hein, mais donc, le premier livre part de la quête de Dieu. Alors, quête philosophique et quête biblique désigne les hérétiques. Et alors, finalement, il désigne deux hérésies symétriques opposées. Le sabellianisme, donc une seule substance et trois apparences. Et l'arianisme, qui d'une certaine manière, très logiquement, dit une seule substance, donc une seule apparence, donc les deux autres apparences sont à éjecter du divin, ainsi que les fondements de l'orthodoxie, et pour lui, les fondements de l'orthodoxie, par-delà Nicée, c'est la pratique baptismale. Donc vous voyez, très souvent, la doctrine s'enracine dans la pratique. C'est typique. On fera la théologie des sacrements des siècles après les avoir pratiqués. La théologie, c'est un peu comme l'oiseau de Minerve selon Aristote, hein, et Hegel. Comme la philosophie pour eux, qui est l'oiseau de Minerve qui prend son envol au crépuscule. Donc on vit d'abord les choses et après on les réfléchit d'une certaine manière. Et là c'est la même chose. En fait, finalement il dit toutes ces questions, la vérité elle s'enracine dans la pratique baptismale qui est originelle. Hein. Si on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien que les trois ont une importance égale, hein. Même s'il y a un ordre. C'est pas parce qu'il y a un ordre qu'il y a une différence de dignité. Donc, alors pour ça, parce que Pavel va l'être dans quoi? Dans 2 semaines
Ça
maintenant.
approche.
Ça s'arrose.
C'est le cas de le dire.
On reconnaît le païen, ça s'arrose.
Mais alors je signale qu'au champagne, ça marche pas. Hein.
C'est pas un bateau.
Voilà. Oui, voilà. Je sais pas qui m'a appelé là. Bon. Alors, Hilaire va montrer que les concepts utilisés par les hommes sont inadéquats appliqués à Dieu. Donc, on s'oppose les uns aux autres avec des paroles, mais il faut avoir conscience que nos paroles sont insuffisantes pour dire la réalité divine. Et donc, il faut chercher plus loin. Donc ça, c'est le premier livre. Ensuite, dans les livres 2 et 3, il va exposer la foi trinitaire orthodoxe. Il va parler du caractère infini du Père, de la génération éternelle du Fils, mais qui n'empêche pas son incarnation dans le temps, et de la divinité du Saint-Esprit. Et il va illustrer tout ça au livre 3 par toutes les citations qu'il trouve dans le Nouveau Testament sur la divinité du Fils et de l'Esprit. Puis ensuite, au livre 4 à 6, il va réfuter Arius, qui nie la divinité et l'éternité du Fils. Et il va aussi se servir de l'Ancien Testament, montrant combien les préfigurations, en mobilisant toutes les figures vétérotestamentaires du Christ, hein, et de la Trinité. Ensuite, il parle au livre 7 de l'unité de nature du Père et du Fils, en s'appuyant évidemment sur les grands textes de Saint Jean, au chapitre 5, au chapitre 10. Et il va dire que, à la fin, dans les derniers livres, 8 à 12, que l'unité du Père et du Fils n'est pas simplement une unité de volonté. Hein, par exemple, on peut être uni à quelqu'un parce qu'on partage les mêmes idées, etc., etc. Mais c'est une unité de nature, voyez. Et il va dire que ce qu'on dit du Père, qu'il est créateur, qu'il est puissant, qu'il est honorable, qu'il a la potestas, la gloire, etc. Tout ça qu'on dit du Père, on peut le dire aussi du Fils. Et il le montre à travers les écrits, à travers les citations bibliques. Ensuite, il parle de la souffrance du Christ, de sa soumission au Père, et de l'éternité conjointe du Père et du Fils. Voilà, donc... En fait, Hilaire s'appuie sur la Regula Fidei et va interpréter l'écriture dans le sens de la Regula Fidei. Vous vous souvenez, l'idée de Regula Fidei, l'idée de canon. Le canon, en fait, c'est un petit roseau, un petit bâton qui servait de mesure. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va... On a besoin, comme je disais tout à l'heure, d'une boussole pour lire les Écritures. Et la Regula Fidei, c'est cette mesure, c'est cette boussole qui nous permet de lire correctement les Écritures. Donc, vous voyez, le sola fide des protestants ne tient pas, puisque les pères de l'Église, dès le début, qui ont voulu s'appuyer sur l'Écriture comme seule source, se sont rendus compte que ça ne suffisait pas. Et qu'ils sont obligés de revenir à la pratique, et la pratique a été normée dès le début par les évêques.
C'est Saint Ignace.
Oui, Ignace d'Antioche, voilà, Irénée de Lyon, tous ces gens-là. Et comme par hasard, quel est le protestant qui va se convertir en lisant Athanase ?
Newman.
Ah oui, Newman.
Oui, voilà.
Il a écrit sur les Ariens.
Oui, voilà, c'est son écrit sur les Ariens, donc son enquête sur justement les apories d'Athanase qui n'arrivaient pas à sortir de la discussion par la simple citation de l'Écriture, avait fini par le pousser à dire finalement, ce qui nous donne l'interprétation juste de l'Écriture, ce sont les évêques. Alors, réunion concile à Nicée, mais... Le concile de Nicée reprend, le symbole de Nicée, c'est la reprise du symbole baptismal. Donc ça s'enracine dans la pratique immémoriale de l'Église, donc dans la tradition. Vous voyez, là, d'une certaine manière, La tradition précède l'écriture. D'abord parce que avant d'être écrite, donc avant d'être écriture, l'écriture était orale, hein, donc, si j'ose dire. Donc elle était tradition. Hein. La tradition, et qu'est-ce qu'on va mettre par écrit ? On va mettre par écrit ce que les chefs de la communauté veulent bien. Donc, en fait, on voit que la tradition et le magistère, même historiquement, précèdent l'écriture. Et ensuite, l'écriture servira de point de référence à la tradition, au magistère ultérieur. Mais, et à la limite, quand on nous dit que le Nouveau Testament a été rédigé pour sa plus grande part dans la deuxième moitié du 1er siècle, mais je dis tant mieux, parce que ça montre bien que finalement la tradition précède bien l'écriture. Vous voyez ? Et que les protestants se tirent une balle dans le pied avec le protestantisme libéral. Protestantisme libéral, donc à l'époque de Harnack, par exemple, c'est de dire, avec la méthode historico-critique, que globalement, on ne peut pas dire que les évangiles ont été écrits dans les années 30, 40, 50, voire les lettres de Saint Paul, que ne sont pas de Saint Paul, ou pas toutes en tout cas, et que certains textes font référence à des controverses de la fin du 1er siècle, ou des choses comme ça. Et alors, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire tout simplement que la tradition a existé avant l'écriture, et une tradition qui était normée justement par les premiers chefs des communautés. Donc ce qui veut dire que le sola scriptura ne tient pas, parce que avant l'écriture, il y a eu la tradition. Et donc nous, historiquement, on ne sait pas nécessairement... On ne pourra jamais faire maintenant la preuve, ou difficilement, si on trouve par exemple des fragments dont on peut dire, tiens, c'est telle écriture, telle encre, telle papyrus qu'on peut dater de telle année, ou en même temps sur un texte de Saint-Marc, on se dit, tiens, et à la même époque, on nous cite un événement de telle année. On se dit, voilà. Mais la plupart du temps, on n'y arrive pas. Donc nos datations, elles sont toujours plus ou moins le fruit de reconstructions intellectuelles, etc., etc. Mais si on nous dit que l'écriture est très ancienne, tant mieux. Si on nous dit qu'elle est plutôt plus récente, bah, tant mieux aussi, parce que, en tout cas, c'est une manière de dire qu'elle n'est pas, elle peut pas exister toute seule, en tout cas. Elle a été, elle est liée à la communauté qui l'a fait exister, et donc à la tradition. Et comme les communautés ne sont pas... comme on croyait naïvement à certaines époques, c'est pas un des rassemblements de gens comme ça qui font un happening ou un sitting ensemble. C'est structuré quoi par la hiérarchie mise en place par le Christ lui-même. Donc vous voyez que magistère et tradition sont à la base même de la précipitation de la tradition en écriture. Hein, comme on dit en chimie, la précipitation d'une solution.
C'est un peu souvent comme ça dans les sciences humaines, de toute façon. Il y a rarement des penseurs qui anticipent la façon dont on va se conduire. Enfin, c'est souvent...
Oui, la plupart du temps, c'est plutôt une réflexion sur le...
Du comportement.
Puis il y a des périodes dites de cristallisation aussi. C'est-à-dire, par exemple, on s'aperçoit que... Il y a des périodes qui sont propices à la mise par écrit de traditions qui ont souvent été... Ah, parce qu'aujourd'hui, on écrit tout, mais autrefois, on écrivait très peu parce que les supports étaient très coûteux et on avait quand même assez peu de gens habiles dans l'art d'écrire. Beaucoup de choses étaient transmises oralement, notamment sous forme versifiée, même chantées. On pense que les premiers textes étaient à l'origine des chants. D'ailleurs, les chants de l'Iliade ou les chants, bon, voilà. Et la mise par écrit arrive, par exemple, lorsqu'il y a une personnalité un peu exceptionnelle. On peut penser, par exemple, Moïse. Moïse, on sait que c'est un sémite par son nom. On sait qu'il y a eu des sémites qui ont été de très hauts fonctionnaires sous certaines dynasties. Voilà, d'Égypte. Et donc, il avait tous les moyens, parce qu'il avait la culture égyptienne, il avait en même temps le personnel administratif égyptien, Et il était en même temps de tradition sémite. Il a très bien pu décider de faire mettre par écrit un certain nombre de traditions. Parce qu'il en avait les moyens intellectuels et les moyens pratiques. Voyez. Donc ça peut être un personnage un peu exceptionnel, peut être à l'origine d'une sorte de cristallisation de la tradition dans l'écrit. Puis à d'autres moments, par exemple, quand une société fait face à un danger, qu'elle est sur le point de disparaître, elle va mettre par écrit ses traditions, voire les dissimuler. Par exemple, les écrits de Qumran, on se doute que c'était au moment des Esséniens, et puis des guerres juives, et que des gens ont voulu protéger leur tradition, les mettant par écrit et les cachant dans des grottes. Donc un certain nombre de choses comme ça, au moment de danger, on va précipiter. Par exemple, quand les Juifs se retrouvent en l'époque du Deutéronome, hein, donc qui reprend des traditions qui avaient accompagné la Torah, eh bien, c'est au moment du transfert en Babylonie. C'est le moment où les Juifs perdent l'hébreu, ils passent à l'araméen, qui est la langue locale, etc. Donc, il y a un certain nombre de lettrés qui vont en profiter pour fixer les choses, pour éviter qu'elles se perdent. Donc c'est comme ça que finalement on a des phases de cristallisation de remarquer, nous c'est pareil, quand on sent notre fin venir, on fait un testament. Là, on va mettre par écrit des choses qui sont à l'oral dans notre tête, et puis qu'on va produire, qu'on va mettre par écrit, vous voyez.